Exploration, gagner en XP dans le JV.
Vous savez, je n'ai pas toujours été un touche-à-tout du jeu vidéo. Avant 2020, il était compliqué pour moi de jouer à de nombreux titres différents. Comme je l'expliquais dans ma chronique portant sur le prix des jeux, il y a désormais beaucoup de moyens de profiter de diverses œuvres pour pas trop cher. Mais pendant une période de ma vie, un seul jeu m'intéressait, et ce jeu, il était développé et édité par une entreprise californienne du nom de Riot Games. Fondé en 2006 par Mark Merrill et Brandon Beck, Riot Games n'est pas un business très prolifique sur ses premières années. À vrai dire, la firme a emprunté un chemin plutôt classique. Elle se crée avec un projet en tête, des investisseurs et investisseuses mettent quelques billets dans la machine, et on attend de voir ce que les équipes du studio nous ont cuisiné. Le plan de Riot, il était simple. Faire une suite à Defense of the Ancients. Alors, dit ainsi, je me doute que personne ne connaît, et en même temps, c'est bien normal. Defense of the Ancients est un mode de jeu de Warcraft 3. La série des Warcraft, le grand public l'a un peu oublié au détriment de son petit frère, le jeu de rôle massivement multijoueur World of Warcraft et ses pubs cultes.
Mon nom, c'est Jean-Claude Van Damme, et je suis un mage. Le corps à corps pour moi maintenant, it's over. Maintenant, je lance des sorts. Powerful. Si tu me cherches trop, je te transforme en chip. Un mouton. Parce qu'on est tous un peu moutons, tu sais. Je suis Jean-Claude Van Damme. Je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues ?
Avant WoW, il existait Warcraft 3, un jeu de stratégie en temps réel dans lequel on devait diriger des régiments afin de récolter des ressources, mais surtout faire la guerre à des factions ennemies. Mais ce qui démarque Warcraft 3 d'autres jeux de stratégie de son époque, c'est l'ajout d'un système de héros. Un héros, c'est un personnage que le joueur ou la joueuse devra superviser en plus des différentes unités qui devient plus fort au fil de la bataille. Et ce sont ces héros qui vont se retrouver au cœur de Defense of the Ancients, abrégé plus tard en Dota. Cette nouvelle façon de profiter du jeu a été conçue par des fans et non pas par les développeurs et développeuses du titre Blizzard Entertainment. Dans Dota, on incarne directement le héros, tandis que les autres troupes sont gérées par l'ordinateur. Il s'agit d'un mode multijoueur en équipe se passant dans une vaste arène où le but est de détruire la base ennemie afin de remporter la victoire. Chaque héros possède des capacités uniques et rend chaque partie très différente, d'autant qu'elle ne se déroule pas sur quelques minutes mais plutôt une trentaine quand cela ne dure pas une heure. Ainsi, le mode de jeu verra le jour en 2003 mais sera officiellement terminé en 2005 par Steve Frick, un américain aussi connu sous le pseudonyme de Ginzu et d'un autre développeur talentueux qui se présente sous le qualificatif d'Ice Frog. Dota va faire naître un nouveau genre de jeu vidéo, le Multiplayer Online Battle Arena, et en français, les arènes de bataille en ligne multijoueur, très vite raccourcies en MOBA. Malgré son petit succès, le jeu n'appartient pas légalement à Blizzard Entertainment. Ainsi, divers studios vont se lancer avec pour idée de créer leur MOBA et de prendre le contrôle du marché du jeu vidéo PC. Pour l'anecdote, Blizzard a tellement regretté de ne pas pouvoir commercialiser Dota de leur côté qu'ils ont plus tard ajouté dans les conditions d'utilisation de leur œuvre que toute production exploitant leur jeu leur revient. La définition même du seum. Bref, je disais donc, beaucoup essayeront, mais seulement deux sortiront du lot au début des années 2010. Dota 2, chapeauté par Ice Frog et Valve, l'entreprise derrière Steam, déjà appréciée par le public pour des titres comme Counter-Strike ou encore Portal, et le bébé de Mark Merrill, Brandon Beck et Ginzu, qui rejoindra Riot, League of Legends. Alors LOL, de son petit nom, normalement plus grand monde n'en a pas entendu parler. Avec ses 14 ans d'existence, League of Legends a redéfini le paysage vidéoludique PC, et cela de trois manières. Tout d'abord, on l'oublie parfois, mais c'est bien LOL qui a popularisé le modèle économique le plus rentable de l'industrie, le free-to-play. Pour rappel, un free-to-play, c'est un jeu gratuit, mais dans lequel on peut tout de même dépenser de l'argent pour obtenir des bonus ou des éléments cosmétiques. Il s'agit d'une formule très prédatrice pour les consommateurs et consommatrices, puisque bien souvent, les titres vous incitent à passer à la caisse. Secondo, en 14 ans d'existence, le studio ne pouvait évidemment pas se contenter de rester les bras croisés. Le jeu est l'un des premiers à avoir démocratisé les mises à jour régulières. De nos jours, nous en sommes à une toutes les 2-3 semaines, avec parfois l'ajout de nouveaux contenus. Et quel contenu ! Reprenant tout ce qui représentait le charme de Dota, on retrouve nos fameux héros, à ceci près que dans LoL, on les appelle des champions. Actuellement, au nombre de 163, ils sont tous aussi uniques les uns que les autres et remplissent différents rôles. Qu'il s'agisse de faire des dégâts à distance ou au corps à corps, d'encaisser de violents assauts, de ralentir ses ennemis ou encore de soigner ses alliés, chaque joueur ou joueuse peut trouver chaussure à son pied. Brandon Beck et Mark Merrill se sont également fait plaisir puisque deux champions portent leur pseudo. Pour Beck, c'est Tryndamere, un guerrier du Grand Nord spécialisé dans les combats en 1 contre 1, et pour Merrill, c'est Ryze, un magicien très puissant pouvant enchaîner les sorts pour démolir ses adversaires. Ah, et Ginzu, de son côté, donnera son nom à un objet du jeu, la lame de Ginzu. Bref, chaque champion a sa particularité et c'est en outre ça qui va rendre le jeu populaire. Ça est notre troisième point, la compétition et la diffusion en ligne sur des plateformes comme Twitch et YouTube. Si LoL est un aussi gros mastodonte aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Il est resté pendant des années au sommet des jeux vidéo les plus regardés sur Internet. Cet exploit, c'est à l'aide de vidéastes s'amusant simplement sur le titre, mais également grâce à des compétiteurs et compétitrices partageant leurs sessions de jeu. Car oui, tout comme le jeu de combat, le MOBA est un genre concurrentiel par son simple principe, l'affrontement en multijoueur. Ainsi, Riot Games va rapidement développer la compétition sur son jeu et créer des tournois à la manière de certaines ligues sportives. C'est de cette manière que LoL, avec ses pas moins de 611 millions d'heures de visionnage en 2022, est devenu le visage de l'e-sport, le sport électronique. Son championnat du monde a d'ailleurs battu tous les records avec 1 million de spectateurs et spectatrices en moyenne par match et pas moins de 5 millions pour sa finale. Alors, vous allez me dire, mais c'est rien comparé à une finale de Coupe du Monde de football. Certes, mais c'est autant que la finale de la Coupe du Monde de handball en 2022 qui a opposé la France et le Danemark. Après, pardon pour les fans de sport qui m'écoutent, mais au moins les mondiales de LoL, ils ont des hymnes stylés, hein, comme avec celui du chanteur Lil Nas X en 2022. Ou celui qui est sûrement l'un des plus connus, Warriors du groupe Imagine Dragons. Bon, cela dit, moi je ne regarde pas d'e-sport, je vous lâche juste ça pour vous faire vous rendre compte du poids d'un seul des titres de Riot Games. Aussi, je ne vous conseille pas non plus de jouer à League of Legends, principalement parce qu'il s'agit d'un free-to-play compétitif. Il faut donc s'investir dans le jeu tout en ayant un certain recul pour ne pas vouloir dépenser tout son argent afin de débloquer les différents champions, ou pire, des costumes des champions. D'autant que je vous dis ça car j'y ai joué, moi, à ce jeu. J'y ai passé 3 ans à côtoyer des gens qui n'avaient que la victoire en tête, et je les comprends. Le titre ne récompense pas particulièrement la défaite, mais surtout 3 ans à subir les échanges injurieux entre différents coéquipiers et coéquipières. Et voilà pourquoi je ne vous le conseille pas, ce jeu. C'est un véritable nid de frustration. D'autant que les jeux en équipe, c'est amusant, mais si un ou une des membres de l'équipe n'est pas au top, il faut redoubler d'efforts. De même, plus personnellement, je suis du style à me prendre de passion pour les récits des œuvres auxquelles je joue. Cela dit, pendant des années, Riot Games n'avait clairement personne à la barre pour écrire des histoires intéressantes à ses champions. Heureusement, sur ce point, ils se sont améliorés avec le temps. Ils ont compris qu'ils avaient créé un univers riche et fascinant, tout en réussissant à mélanger les genres. D'ailleurs, ils se sont même dit qu'il serait bien de l'étoffer au travers de réalisations transmédia, un peu à la Pokémon. Ainsi, on a vu naître des bandes dessinées, des romans, mais aussi des jeux estampillés League of Legends. Toutes ces œuvres sont, semble-t-il, très sympathiques, mais s'il ne fallait en retenir qu'une seule, c'est clairement la série Arcane. Produite par Netflix et le studio d'animation français Fortiche, le show nous raconte l'origine de divers champions avec une nouvelle fois de grands noms sur la bande-son, dont encore une fois Imagine Dragons au générique. Et vous devez peut-être vous demander qu'est-ce qu'ils produisent comme différents jeux Riot Games. Alors, essentiellement des œuvres dans l'univers de League of Legends. Hein. Des petits jeux de rythme, de rôle, d'action, ils visent large, mais restent tout de même accrochés à leur principal cheval de bataille, le multijoueur compétitif et le free-to-play, avec leurs trois autres gros titres. Le premier, c'est Legends of Runeterra, un jeu vidéo de cartes à jouer basé sur LoL. Le second porte le nom de Teamfight Tactics, un jeu de stratégie dans l'univers de LoL qui se joue un peu comme les échecs, mais qui ajoute tellement de possibilités qu'au final, il n'y a plus aucun rapport. Et enfin, leur dernier gros succès, Valorant, un jeu de tir très inspiré par Counter-Strike et qui pour une fois n'a rien à voir avec LoL, alléluia. Bon, vous l'aurez compris, Riot Games est indissociable de League of Legends et ils l'ont bien saisi. Une autre chose qu'ils ont bien saisi, c'est de montrer patte blanche. En effet, depuis quelques années, la compagnie se félicite périodiquement d'avoir amélioré l'ambiance globale au sein de ses équipes. Et pour cause, en 2018, une enquête du média Kotaku révélait que Riot possédait une culture d'entreprise sexiste et hostile aux femmes. Alors, ce genre d'histoire arrive malheureusement souvent dans le monde du travail. Mais quand, en 2021, le français Laurent Nicolo, directeur général du studio, est accusé de harcèlement sexuel, avant d'être innocenté par « attention hein !» une enquête interne le mois qui suit, désolé de vous dire que bon, il y a peut-être bel et bien un problème dans cette boîte. Riot Games, c'est une véritable relation amour-haine qu'ils entretiennent avec leurs joueurs et joueuses. Et c'est encore plus énervant lorsqu'on se rend compte que des tas de personnes talentueuses travaillent là-bas. Qu'il s'agisse des artistes responsables des visuels des jeux, des scénaristes qui en quelques années ont réparé le chaos qui était l'histoire de League of Legends, les concepteurs et conceptrices de jeux qui trouvent toujours de nouvelles idées pour créer des interactions uniques dans les différents titres de la firme, ou même les compositeurs et compositrices qui font vraiment un travail incroyable, surtout sur les thèmes musicaux des champions de League of Legends, Riot Games est rempli d'individus brillants. Les compositions sont d'ailleurs malheureusement peu mises en avant dans leur jeu, ce qui est à mon avis bien dommage. Pourtant, j'ai un espoir. Riot Games produit actuellement un jeu de combat sous l'égide de Tom et Tony Cannon, deux frères jumeaux à l'origine du plus grand tournoi de jeux de combat, l'Evo. Et si je ne suis pas un fan de MOBA, j'aime bien l'univers de LoL et j'ai hâte de voir les champions dans un jeu où seuls deux adversaires s'affrontent. Et qui sait, peut-être que j'en parlerai à l'antenne si le titre me plaît. Par contre, j'espère vraiment qu'ils mettront les thèmes des combattants dans le jeu. Surtout celui de Cassante, un guerrier sans peur, inspiré par la culture d'Afrique de l'Ouest, prêt à tout pour protéger sa cité. Une idée parfaitement retranscrite dans son thème, composée par Brandon Williams, qui me rappelle d'ailleurs le travail de Ludwig Göransson sur les films Black Panther.
Yeah.